Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead.
Always. Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Première chose, comme vous le savez, si vous passez sur Basket Session régulièrement, sur nos réseaux sociaux ou voilà, si vous êtes abonné à notre newsletter, vous savez que nous venons de boucler notre nouveau numéro qui est un numéro un peu exceptionnel. C'est le MOOC numéro 11, spécialement dédié à Michael Jordan. Voilà, on a fait l'annonce le jour de son 60e anniversaire. On a pu envoyer tous les dossiers à l'imprimeur le 23 février 2023. Donc voilà, tout un tas de choses dont on est assez fier. Si vous avez vu passer peut-être l'info, mais on a eu la chance d'être épaulé par du beau monde dans ce numéro aussi, puisqu'on a eu Oxmo Puccino en rédacteur en chef, avec une interview vraiment intéressante menée par Wax, qui était le rédacteur en chef exceptionnel de notre numéro 5 spécial Kobe Bryant. On a aussi eu la chance de pouvoir parler avec Sam Smith, le journaliste historique du Chicago Tribune. On a aussi pu avoir Mustapha Sonko, légende vivante du basket français, peut-être un des joueurs qui a été fortement impressionné et influencé par Michael Jordan, et qui à son tour a influencé toute une génération de basketteurs français à partir dans de nouvelles directions. On a aussi eu Antoine Leroy, journaliste émérite de Canal+, rédacteur en chef de l'émission Intérieur Sport. Bref, plein de beau monde pour nous aider à décrypter le phénomène Michael Jordan. Le numéro est toujours en précommande, vous pouvez aller sur Basket Session pour le précommander, histoire de profiter à la fois des frais de port offerts et pouvoir être sûr d'être parmi les premiers à le recevoir. Donc voilà, allez jeter un coup d'œil sur Basket Session. Et puis j'avais à cœur, avant qu'on lance cette nouvelle émission, de vous parler de deux projets artistiques, deux albums. Donc si vous nous suivez sur YouTube, vous pouvez voir derrière moi, il y en a un, c'est le nouvel album de Wax Taylor qui vient de sortir. Voilà, si vous aimez la musique, je vous conseille d'aller jeter une oreille attentive à ce disque, d'une part parce que c'est un musicien talentueux, mais aussi parce que c'est un mec vraiment sympa, totalement passionné de basket. Donc voilà, c'est de l'indépendant, c'est de la musique qui a du cœur. Donc allez y prêter une oreille. Et je voulais aussi vous parler de cet album-ci, qui est le nouvel album d'une chanteuse qui s'appelle Elodie Rama, basée à Marseille. Son album vient de sortir, le clip avec du morceau avec Akhenaton, qui s'appelle Indigo, est paru la semaine dernière. Là aussi, c'est une artiste vraiment intéressante à découvrir. Si vous êtes passé sur Basket Session, vous avez pu croiser une interview d'elle, parce qu'elle aime aussi pas mal le basket. Donc voilà, écoutez, avant qu'on se concentre uniquement et principalement sur le ballon orange qui rebondit et qui rentre dans le panier, voilà, je voulais passer une petite dédicace, faire un petit mot pour ces deux projets qui nous ont bien tapé dans l'oreille. Et heureusement, pour parler basket, je suis rejoint avec la Dream Team. Dream Team humaine, en fait, c'est Benjamin Moubèche. C'est-à-dire que quand tout le monde est malade, certains sont en train de finir de boucler le reverse, il y a Benjamin qui monte au créneau pour assurer 3 heures de live sur Twitch sans aucun problème. Donc Benjamin, la Dream Team humaine, et Antoine Pimel, dont c'est le retour avec une voix à nouveau étincelante, clinquante, comme au plus beau jour de la carrière de Barry White. Comment ça va, les gars?
Écoute, ça va super. Si on est une Dream Team, je pense que je suis un peu Michael Jordan et que Antoine, c'est Christian Lettner, mais effectivement.
Ah, t'aurais pu dire pire. Là. Comment il s'appelait le rookie qui se faisait malmener par Jordan là, dans The Last Dance?
Il y en a eu pas mal, des
rookies. Il y en a eu tellement.
Il faudrait être plus spécifique.
Il y en a eu tellement.
J'ai oublié son nom. Non, mais ouais, ça va mieux, effectivement. Ça va mieux. Alors, sachez, juste petite anecdote, hein, Théo n'a pas dormi depuis 8 jours pour qu'on puisse spécialement boucler le 23 février, pour que ça tombe pile le 23, vous voyez, parce qu'au final, on aurait pu avoir le 24, mais il n'a pas dormi depuis 8 jours, donc pensez à soutenir en achetant le MOOC. Et Benjamin n'a pas non plus dormi depuis 8 jours, mais ça, c'est parce qu'on l'exploite, c'est normal.
Eh oui, c'est la base, c'est mon travail. Hein.
Voilà, donc, portez les sacs. On espère que les URSAF n'écoutent pas ce podcast, mais en tout cas, voilà, vous avez un petit peu de la tambouille de comment ça se passe en coulisses chez Rivers. Pour cette émission, on a, voilà, le All-Star Game est passé, la free agency est terminée. On avait envie de voir un petit peu quelles étaient les questions les plus intéressantes qu'on se posait sur cette fin de saison, parce qu'il y a pas mal d'équipes qui n'ont pas bougé et pour lesquelles il y a des questions qui se posent, d'autres qui ont bougé et pour lesquelles des questions se posent. Quelles sont les équipes ou les joueurs les plus intrigants pour cette deuxième partie de la saison? C'est le thème du sujet qu'on voulait vous proposer aujourd'hui. Question ouverte, tous les deux, Antoine, Benjamin, est-ce qu'il y a justement une équipe ou un joueur en particulier qui instinctivement vous est venu à l'idée quand on discutait de faire le podcast sur ce thème?
Antoine, je te laisse y aller parce que je sais
non,
ce que tu
Mais non, justement, c'est... Non, vas-y, commence. Je te jure, commence.
Ok, je vais moins enfoncer une porte ouverte que toi et, ouais, parce que je sais ce que tu parlais. Moi, j'aimerais parler des Warriors parce qu'actuellement, ils sont quand même 10e de l'Ouest avec un bilan négatif de 29 victoires pour 30 défaites. À peu près, hein, je n'ai plus exactement le classement en tête. Mais donc, Ok, bah super. Ils sortent du All-Star Break, donc dans cette situation un petit peu compliquée, où ils sont donc qualifiables pour le play-in. Par contre, ils ne sont pas encore clairement qualifiés pour les play-offs. C'est les champions en titre, ils ont quand même une énorme équipe à la base. Il y a la blessure de Stephen Curry, ok, il y a quand même pas mal de renforts derrière normalement. Et pourtant, ça a l'air de pas trop fonctionner cette année. Donc, ma question, c'est est-ce que les Warriors peuvent encore se rattraper sur la fin de la saison et passer au statut de contender vraiment cette année?
Je trouve que c'est une très bonne question. Moi, je serais d'avis de dire que c'est quand même compliqué, notamment pour répondre précisément à ta question. C'est très dur quand tu as connu une saison aussi galère de d'un coup renverser à ce point la vapeur. J'ai l'impression quand même que, tu vois, il n'y a pas non plus complètement fumé sans feu. Il y a des excuses, hein, bien sûr, il y a des blessures, il y a des aléas. Là, ils jouent sans Curry, sans Wiggins, hein, ça aide pas. Tu manques peut-être tes deux meilleurs joueurs, en tout cas ton meilleur joueur et un de tes meilleurs joueurs, ton meilleur défenseur, en tout cas, avec Draymond Green.
Le meilleur joueur de l'histoire, d'ailleurs.
le chouchou de Benjamin. J'ai l'impression que même au complet, il y a quand même des traces en fait, qui vont rester sur cette saison. Et ça sent plus le barreau d'honneur que la vraie quête de doublé, selon moi, en tout cas.
Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, quand on a un champion en titre, j'ai tendance à quand même donner plus de crédit à cette équipe-là qu'à d'autres, donc à me dire, bon, il y a encore potentiellement une manière de se rattraper. Sur les aspects positifs, c'est que toute l'année, en fait, le 5 majeur des Warriors a été excellent toute l'année, en fait. Donc là, il y a quand même un scénario dans lequel ils peuvent se dire, bon, si on arrive en play-off et qu'on a notre 5 majeur, on ne sera pas facile à sortir. Et je pense effectivement qu'ils ne seront pas faciles à sortir. La question qui se pose et qui est intéressante et que tu soulèves, Benjamin, c'est que pour ça, il faut malgré tout déjà qu'ils participent au play-off et qu'effectivement, vu leur classement actuel, ce n'est pas garanti. Et surtout, ce que ça valide, en fait, c'est l'échec finalement du projet Warriors sur cette saison. Moi, je suis le premier à être tombé dans le panneau, ou du moins, j'y avais cru très, très fort. On avait fait un début de podcast, c'était peut-être même le premier de la saison, ouais. où moi je les pensais même invincibles cette année, parce que j'avais cru fort à leur projet jeune et à ce que les jeunes pouvaient apporter. C'est pas le cas. Ils ont bougé un peu à la free agency. Faudra voir ce que pour. Il y a des aspects. Si on veut regarder le verre à moitié plein, il y a des aspects intéressant quoi. Dante DiVincenzo qui commençait à vraiment être rentré un petit peu dans le moule, l'arrivée on espère pouvoir le qui sera vite sur pied de Gary Payton Gary Payton. Ouais. Pardon, voilà, ça c'est des aspects que je trouve positifs. Par contre, c'est vrai que j'ai plus du tout quand même la même certitude, ou même jusque, je sais pas, au bout de 20 matchs, je me disais, bon, ils vont redresser la barre, de toute façon, ça va le faire, ils vont arriver en play-off fort. Là, il y a quand même, je veux dire, le sens commun laisse penser que ça sera pas l'année des Warriors cette année et que ça va être compliqué, parce que même si finalement ils retrouvaient leur 5 majeur en play-off, il n'y a pas suffisamment, je trouve, de parmi les joueurs de rotation, de joueurs qui ont pu montrer qu'on pouvait vraiment compter sur eux et qu'ils pouvaient avoir répliqué leur performance en play-off, parce que tout au long de la saison, finalement, c'est vraiment des performances en dents de scie depuis le début de l'année pour tous les joueurs de complément. Donc ouais, la question est vraiment hyper pertinente, je trouve, Benjamin.
C'est aussi parce que je pense que l'Ouest est beaucoup plus relevé que l'année dernière. Par exemple, l'année dernière, ils ont joué les Nuggets en play-off, mais les Nuggets n'avaient pas Jamal Murray, ils n'avaient pas Michael Porter Jr. Là, cette année, s'ils jouent les Nuggets qui sont premiers de l'Ouest et donc qui devraient affronter les Warriors s'ils passent le play-in un petit peu en second rideau, est-ce qu'ils battent les Nuggets quoi? Je ne suis pas sûr de ça. Donc, dans ce contexte-là où effectivement il y a pas mal d'équipes qui émergent, eux sont dans une saison compliquée, il y a des blessures, il y a des problèmes de cohésion, il y a la free agency qui arrive qui fait un petit peu peur parce qu'on a peur de certains départs, notamment dans le front office. Je trouve que le contexte des Warriors est beaucoup moins incertain que ce qu'on pensait en début de saison. Donc, effectivement, je serais curieux aussi de savoir ce que les gens qui écoutent le podcast en pensent dans les commentaires sur YouTube.
Mais c'est intéressant que tu parles des Nuggets parce qu'effectivement, Alors, c'est peut-être que je me leurre encore une fois, mais si les Warriors font les playoffs et qu'ils doivent prendre au premier tour n'importe quelle autre équipe à part Denver, je pense qu'il y a une chance quand même. Je pense que les Warriors, c'est pas impossible qu'ils passent un tour malgré tout, en fait. Mais
Non,
par contre,
non, mon
effectivement,
pardon.
je les verrais pas passer Denver à l'heure actuelle.
Moi aussi, par exemple, je me dis pas que c'est impossible qu'ils passent un tour. Alors peut-être pas Denver, comme toi, pareil, je suis pas sûr que ce soit le meilleur match-up pour eux. Par contre, je me dis qu'en fait, tu pars de trop loin pour être champion, tu vois.
Ouais,
Ça
pareil.
t'arrive de remonter sur une, déjà sur une moitié de saison, ça t'arrive. Mais là, il reste 20 matchs. Et même, tu sais, on parle de play-off, mais même le play-in, en fait, il n'est pas acquis. Il y a les Lakers qui commencent, qui sont. En fait, ils ont 29 victoires. Les Lakers qui sont 13e, ils en ont 28. Il y a un match d'écart entre la 10e et la 13e place. Ils vont jouer au moins une semaine de plus sans Curry, peut-être deux. C'est même pas. Enfin, et je pense qu'ils vont faire les playoffs et le play-in, ou plutôt dans l'ordre play-in-playoff, mais c'est même pas encore complètement acquis. Et ouais, du coup, même si je pense qu'effectivement, hein, au complet, ça reste une équipe très forte, qui a tellement de vécu, de bases solides, que ça peut passer, ça peut gagner des séries, mais je pense que pour aller jusqu'au bout, quel que soit l'adversaire contre qui ils perdent, que ce soit Denver, Milwaukee, Phoenix, peu importe, je pense qu'il y a un moment où tu pars de trop loin pour remonter vraiment la pente, quoi.
Ouais, bah, y a de ça, effectivement. Déjà, parce que tu as besoin de ces victoires d'un pur point de vue comptable pour participer aux playoffs, et aussi pour la répétition simplement la répétition des matchs, quoi. On en revient à cette question de cette problématique du côté de Golden State, du manque de solidité et du banc. Finalement, ils vont se retrouver, même s'ils devaient accrocher les playoffs, à devoir lancer des mecs un petit peu et puis sans être certain de ce qu'ils pourront en retirer, je pense, notamment en termes de sur les rotations, quoi.
Oui, clairement. Et puis même Stephen Curry, enfin, n'est pas comment dire, c'est pas un surhomme. S'il arrive en playoff, qu'il a moitié cassé, qu'il a forcé pour revenir plus tôt que prévu, qu'il s'expose peut-être à de nouvelles blessures, qu'il n'est pas en rythme, etc. Il faut pas s'attendre au Stephen Curry de l'année dernière, qui est arrivé en playoff dans des conditions optimales et qui a fait un run historique pour lui. Même Andrew Wiggins, même problème. Si on arrive avec cette équipe des Warriors qui a moins d'alchimie, dans laquelle il y a eu des problèmes au début de la saison, dans lesquels tous les rôles ne sont pas encore clairs, par exemple Jordan Poole, avec l'absence de Curry, avec tout ce qui s'est passé, son rôle a beaucoup évolué cette saison. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de système vraiment établi à Golden State. Je pense fixer tout ça sur une vingtaine de matchs, ça va vraiment être compliqué. Et comme dit Antoine, en fait, c'est passer un tour, pourquoi pas, mais ils sont peut-être, enfin, ils ont l'air beaucoup trop short pour être champions cette année. En tout cas, c'est pas les favoris.
D'ailleurs, au passage, sur leurs 5 majeurs, j'en profite, leur 5 majeur qui a un super rating là, c'est celui avec Looney et tout, en fait, ils l'ont changé d'ailleurs, j'y pense là, et c'est plus le 5 qu'ils vont utiliser. Mais apparemment, ils sont partis pour mettre Jordan Poole dans le 5, parce que Jordan Poole n'est pas vraiment à l'aise dans un rôle de remplaçant. Donc, au passage, même cette espèce de line-up très fort avec Looney, Green, Wiggins, Thompson et Curry, ça sera apparemment, a priori, en tout cas, pas le 5 majeur. Quand ils seront complets. Donc, même sur ça, comme tu as dit, ça fait effectivement une adaptation. Faut créer des automatismes et Curry a très peu joué cette saison. Donc, ils ont déjà joué avec ce groupe en playoff, bien sûr. Hein. Il y a déjà eu des moments l'an dernier où ces gars-là jouaient tous ensemble. Mais bon, voilà, ils vont devoir apprendre à gérer les minutes de ces mecs-là ensemble. Qui sort à quel moment? C'est des trucs sur lesquels la saison régulière est censée aiguiller. Et ça, au final, Steve Kerr, il n'a jamais vraiment pu le mettre en place. Il va un peu expérimenter. À vue sur les derniers. Enfin, ouais, ça rejoint tout ce que vous dites, quoi. Ça peut être un peu compliqué.
À savoir que statistiquement, le line-up là, dont on parlait à la base avec Curry, Thompson, Wiggins, Green, Looney, c'est un peu bien différentiel. Par
Pardon.
contre, le 5 avec donc Curry, Poole, Thompson, Wiggins, Green, c'est un plus 2,9. Donc rien à voir en termes d'efficacité cette saison. C'est un line-up qui ne se trouve pas. Donc il faut essayer de faire fonctionner quelque chose sur une vingtaine de matchs. Il y a eu des précédents, hein. Il y a des gens qui l'ont fait, qui sont allés loin en play-off sur ce genre de. Après. Beaucoup d'incertitudes à ce stade de la saison, qui ont tout rattrapé sur la fin. Je pense aux Hawks quand ils ont fait les finales de conférence il y a quelques années. Mais pour le coup, faut pas attendre ça de toutes les équipes qui sont en galère après le All-Star Break.
T'as réussi à nous caser les Hawks dans le podcast.
Et oui, j'ai casé les Hawks dans le podcast.
Incroyable.
Bon, Antoine, on va
Maman.
passer tous les deux pour
Ouais.
le reste de l'émission, s'il te
Ouais.
plaît.
Okay. Salut.
Ouais, allez, moi je vous donne une autre question en conférence Est. Je vais la tourner exprès de manière un peu provocatrice.
Comme
Est-ce
d'hab.
que Mitchell et Garland, vont comprendre que Mobley est le meilleur joueur de l'équipe? Ça, c'est ma question. Alors, je ne pense pas que Mobley soit le meilleur joueur de l'équipe, mais je le tourne un peu comme ça. Je vous mets un peu de contexte, notamment avec le match de jeudi soir qui était intéressant contre les Nuggets, où Mobley a mis 31 points, mais durant les trois premiers quart-temps, ils ne lui ont pas du tout passé la balle dans le quatrième. Du coup, Cleveland ne met que 18 points dans le quatrième quart-temps. Ils perdent, ils se font remonter par le Nuggets, ils perdent le match. C'est pas nouveau, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça arrive souvent en fait que les Cavaliers, c'est que notamment Mitchell et Garland jouent beaucoup de hero ball en fin de match et passent moins la balle à Mobley, alors que Mobley est en train de passer un cap offensivement. Et moi, ça me fait un peu peur pour les playoffs, parce que je pense que justement dans une configuration playoff, il y aura beaucoup de moments comme ça. Je voulais savoir un peu ce que vous en pensez, ce que vous pensez que va y avoir un vrai changement à Cleveland, ou est-ce que ça se fera pas tout de suite?
Moi, je trouve que tu poses la question de la manière la plus
orientée
possible.
J'ai orienté volontairement un peu.
Et du coup, pour répondre à ta question, est-ce qu'ils vont réaliser que c'est le meilleur joueur de l'équipe? Bah non, parce que ça ne l'est pas. Et
oui,
voilà, donc en fait, c'est juste que je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre le fait de vraiment beaucoup plus donner le ballon à Mobley, le responsabiliser, ne serait-ce d'ailleurs que pour son développement, parce que c'est un sophomore. Il faut qu'il progresse encore, et ça passe par le fait de lui donner plus de responsabilités, de lui donner plus de place dans le projet des Cavaliers, etc. Donc ils auraient intérêt à le faire, mais en l'état quand même, Donovan Mitchell reste le go-to guy dans le quatrième quart-temps. Il suffit de regarder les chiffres, c'est un mec qui met 124,4 points pour sentir tenter. Evan Mobley, il en met 118,7 pour un intérieur qui a beaucoup moins d'options que Mitchell, qui peut pas tirer à 3 points comme Mitchell, qui peut pas créer autant d'actions que Mitchell. C'est assez faible en fait. Donc il y a beaucoup plus de raisons de donner le ballon à Mitchell, à Garland en fin de match, et d'autant plus que Garland peut créer pour les autres. Maintenant, c'est vrai que des fois les deux ont tendance à jouer un petit peu avec des œillères. Garland a tenté des pénétrations avec un tir drop sur la fin pour sauver un petit peu le match. Mitchell a toujours eu ce problème, on l'a vu avec Gobert aussi, quand il est dans son truc il lâche plus trop le ballon à certains moments. Il a fait des progrès à la suite de cette saison, mais c'est pas encore ça, c'est un des mecs qui passe le moins le ballon du côté des Cavaliers par rapport au temps qu'il a dans la main. Donc je pense qu'il y a plus une histoire pour Mitchell et Garland de juste retirer leurs œillères par rapport au collectif général, plutôt que de dire Evan Mobley, notre dieu, c'est le meilleur joueur des, oui. des Cavaliers et il va nous sauver, quoi.
Non, mais c'est une question super intéressante, parce que de toute façon, c'est ce qu'on s'était dit au moment du trade de Mitchell, et une des raisons pour lesquelles moi je trouvais que c'était un très bon trade de la part des Cavaliers et qu'ils avaient raison de le faire, c'était parce que à terme, je pense que c'est clair que c'est Mobley qui peut être le vrai franchise player, le meilleur joueur de cette équipe. Et si c'est le meilleur joueur de cette équipe et que derrière tes joueurs 2 et 3, c'est Garland et Mitchell, t'es super bien placé pour pouvoir être extrêmement ambitieux. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est de voir aussi la ligne de, comment dire, la trajectoire de progression d'Evan Mobley. Il avait commencé un petit peu doucement la saison. Moi, je m'attendais à ce qu'il passe le cap tout de suite, tellement j'avais été bluffé par son niveau l'an dernier. Après, c'est normal que ça prenne du temps. Et là, je trouve qu'il a raccroché les wagons. Il a repris cette trajectoire. Et moi, dans le jeu, enfin, pas forcément purement dans le jeu, mais dans le physique, dans les aptitudes et dans la trajectoire, il me fait quand même pas mal penser aussi à un joueur comme Chris Bosh, qui au début était un joueur de complément en fait pour d'autres stars. Exactement. Comme Vince Carter. Il a fallu le départ de Vince Carter pour qu'on se rende compte tout à coup du joueur incroyable qu'il pouvait devenir. Et donc moi, je trouve pas ça inquiétant à long terme. Je pense qu'effectivement il y a un apprentissage, celui pour Evan Mobley de tout prouver jusqu'où peut aller son potentiel, et pour ça il a besoin de la balle effectivement, parce qu'il est encore dans la découverte lui aussi. Et même chose collectivement en fait, faut que le collectif se rendent compte et découvrent de ce qu'il peut leur apporter, notamment offensivement, parce que défensivement, la question ne se pose même pas. Donc je pense que cette campagne de play-off va être extrêmement intéressante pour Cleveland. Elle n'est pas primordiale dans le sens où il n'y a pas encore d'objectif clairement établi, mais je trouve qu'elle aurait intérêt à être la plus longue possible pour pouvoir emmagasiner justement le plus d'expérience possible, d'avoir le plus de répétitions dans des matchs couperets, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour l'an prochain, s'assurer qu'il y a un rééquilibrage, notamment dans les moments clés.
La comparaison avec Chris Bosh, moi, c'est exactement ça. Il me fait vachement penser au Chris Bosh version Dread des Raptors numéro 4. C'est vraiment, il y a des vraies similitudes. Alors bien sûr, hein, je taquinais beaucoup dans ma question. De toute façon, c'est évident que la balle sera dans les mains de Mitchell le plus souvent en fin de match. Et puis quelque part, le poste, tout simplement, le style, comme tu l'as très bien dit, Benjamin, le style de jeu et le poste veut ça. Ce qui me fait un poil peur pour Cleveland, j'ai aussi quelques stats. Evan Mobley prend que 2 tirs par match dans les quatrièmes quart-temps. 2 tirs par match, pour vous donner une idée, Cedi Osman et Caris LeVert, qui sont tous les deux remplaçants, ils prennent autant de tirs dans les quatrièmes quart-temps qu'Evan Mobley. Alors après, ma question, ouais, je l'ai fait de manière très provocante. Hein. L'idée, c'était, je pense que les Cavaliers ont tout intérêt en fait, à varier beaucoup plus leur jeu. Et c'est vrai que ce n'est pas facile dans les moments... En fait, dans les moments tendus, on voit bien toutes les équipes ont tendance à ralentir le jeu, à faire moins de passes, etc. Mais je pense qu'eux, ils ont vraiment intérêt, dans le sens où ils ont Donovan Mitchell et pas... Et ce n'est pas une attaque envers lui, et pas Jason Tatum. Ils n'ont pas Jason Tatum, ils n'ont pas Stephen Curry, ils n'ont pas Kevin Durant, ils ont Donovan Mitchell. On est quand même sur un niveau un peu en dessous. Je pense que tu as intérêt quand même à varier un peu ton jeu. Et j'ai une autre stat, du coup, Cleveland, c'est que la 17e équipe dans le clutch time de toute la ligue. Donc le clutch time, c'est quand il y a moins de 5 points d'écart ou 5 points d'écart au moins dans les 5 dernières minutes, Cleveland, en fait, perd ces matchs-là de manière générale. Cleveland n'est pas très efficace dans ces matchs-là par rapport à d'autres équipes de playoffs. Et ça, on sait qu'en playoffs, c'est des situations qui vont se présenter. Et j'ai peur qu'en playoffs, et justement, c'est pour ça que j'en parlais dès maintenant, effectivement, ils ont le temps, peut-être que l'évolution, elle se fera plus tard, mais j'ai peur que pour cette campagne à venir, au final, on voit encore beaucoup du Mitchell, et Mitchell, on sait ce que c'est aujourd'hui comme joueur. C'est un très bon joueur, c'est un joueur qui t'emmène au deuxième tour, dans le meilleur des cas. Je pense pas plus haut, c'est pas grave, ils ont le temps, ils ont pas la pression, comme tu l'as dit Théo, hein. Et déjà, ils reviennent en play-off, c'est déjà bien. Et je pense aussi que leur avenir passe par Mobley, passe par le jour où Mobley ça sera la star. Mais je pense que dès cette saison, ils peuvent vraiment faire quelque chose. Et pourtant, j'ai été sceptique sur eux. Je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose si dès cette saison, ils comprennent qu'ils ont tout intérêt, même pour Mitchell et pour Garland, à faire passer le jeu beaucoup plus souvent par Mobley pour rester imprévisible, en fait. Parce que sinon, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop prévisibles. Surtout avec deux intérieurs de grande taille, en attaque, c'est très difficile si ton jeu repose que sur des picalons et des isolations. Pardon.
Non, mais je suis totalement d'accord avec toi là-dessus, Antoine. Pardon, vas-y Benjamin.
Non, je voulais juste caler ce que dans le tableau de The Ringer, vous savez, sur qui calcule les chances d'aller en play-off, les chances de gagner le titre notamment, les Cavaliers sont favoris pour le titre avec 19% de chance. Donc, je ne sais pas... Comment c'est calculé, oui, mais ouais, apparemment ouais. Ils sont d'accord avec toi. Maintenant, je pense quand même que Donovan Mitchell a beaucoup évolué depuis la période au Jazz. Il a beaucoup moins le ballon, il est beaucoup plus efficace, il est beaucoup mieux dans son rôle, il est mieux défensivement. En fait, c'est un meilleur joueur aujourd'hui, c'est un joueur plus collectif, dans un meilleur effectif. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Cleveland, c'est déjà pas que Donovan Mitchell. Et bon, c'est que tu soulignes justement le manque peut-être de responsabilité qui est donné à Mobley dans le dernier quart-temps, parce qu'il y a encore des choses à gommer pour Donovan Mitchell d'être encore plus collectif et pour Jabby Bickerstaff de créer quelque chose d'encore plus collectif, notamment dans le money time. Et perso, je suis assez confiant sur le système actuel des Cavaliers. Je pense que Evan Mobley peut progresser là-dedans, mais qu'ils sont déjà bien s'ils continuent à jouer comme ça en fait.
Oui, ça reste une très bonne équipe de l'Est. Sauf qu'après, de toute façon, leur but, c'est pas de gagner dès cette saison.
Mais... Je pense.
Mais bon, c'est... je pense que le plus tôt, comme tu le disais d'ailleurs au tout début, c'est ce qui est intéressant, le plus tôt tu mets Mobley dans ces situations où tu lui passes un peu la balle en fin de match, le plus tôt il apprend en fait. Donc pourquoi attendre que... Tu vois, on parlait de Chris Bosh, il a fallu que Vince Carter parte. C'est des contextes différents. Mais tu vois ce que je veux dire? Là, à un moment, ils sont priori, ils sont faits pour construire avec Mitchell et Garland, mais avec Mobley. Et je pense que tout le monde à peu près dans le staff est conscient que ce sera Mobley la superstar. Pourquoi Prends le temps dès maintenant d'essayer de le développer dans ces situations, surtout en saison régulière, quand ta quatrième place, elle n'est pas assurée, bien sûr. Et tu sais que derrière toi, il y a Brooklyn qui a perdu ses stars, il y a New York, tu as 4-5 victoires d'avance. C'est le moment, en fait, d'essayer. Tu vois. Je pense que là, c'est vraiment le moment parfait. Autant essayer dès maintenant, quoi.
Non, mais je suis totalement d'accord. Surtout quand tu as un joueur, en fait, quand tu as le luxe d'avoir un joueur comme Evan Mobley qui est tellement polyvalent, qui peut s'adapter tellement à ce qui se passe, que En fait, tu as besoin d'avoir ces situations en live, en situation réelle, pour justement pouvoir mesurer ce qui marche, ce qui marche pas, quels plans défensifs peuvent venir embêter Cleveland. Parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment le type de joueur qui peut, à terme, être un peu polymorphe et s'adapter aux situations et te faire payer d'une manière ou d'une autre, en fait. Mais pour ça, ça demande d'être passé par ces situations, situations de jeu-là. Là, ce qui est le luxe énorme, c'est qu'en fait, t'as presque pas besoin de lui donner la balle pour qu'il soit efficace, en fait. Il peut aller se contenter de grappiller par-ci par-là, de récupérer un ballon en fin de possession, d'arriver à en faire quelque chose. Défensivement, on le redit encore une fois, c'est quand même là où il en est à ce stade de sa carrière, c'est assez flippant hein, sur son potentiel à terme. Donc c'est ouais, tu pouvais pas espérer mieux du côté de Cleveland, enfin meilleur draft, je pense. Et moi, j'ai quand même confiance un petit peu dans le fait que Garland et comment dire et Mitchell puissent adapter leur jeu et comme tu le disais Antoine, réaliser que plus ils rendront le jeu, plus dans les quatrièmes quart-temps ils pourront passer par un troisième joueur, plus ça leur simplifiera la tâche. Ce que je trouve qu'ils arrivent à faire assez bien l'un avec l'autre en fait. Maintenant, il faudra qu'ils arrivent à utiliser le reste de l'effectif pour ça.
J'ai l'impression qu'en fait, eux deux, ils arrivent à se considérer au même niveau. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ils
Ouais.
arrivent à, tu vois, il y a cette espèce de respect de, ouais, on est les deux stars, quoi, tu vois. Genre, c'est pas, ouais, t'es mon petit. Mobley, il est un peu plus jeune. Je pense qu'ils sont conscients du potentiel, mais je pense qu'ils le considèrent pas encore comme tel, en fait. Et comme il a l'air d'être pas le genre de mec qui va être, se mettre vachement en avant, tu vois, il a un peu ce côté Anthony Davis de, bon, bah, si on me passe pas la balle, je vais pas non plus la réclamer de force, tu vois. Je vais faire d'autres choses. Si se met le, tu vois, par exemple, ça serait Paolo Banchero, je suis sûr que Paolo Banchero, il demanderait la balle, il dirait, non, mais attendez, les mecs, qu'est-ce que vous faites? Vous me passez la balle, quoi, tu vois, c'est à un moment, ça va. Je pense qu'ils ont, il n'y a pas encore ce petit déclic, mais peut-être que ça va peut-être arriver très vite, et peut-être même dès cette saison, de se dire, ah, attends, mais lui aussi, il a notre niveau. Parce que je pense qu'en fait, il est déjà à leur niveau. Façon de parler, il n'est pas au niveau de
Fais
Mitchell.
attention quand
Non,
même.
mais il n'est pas au niveau de Mitchell. Il n'est pas au niveau de Mitchell, en fait, surtout offensivement. Mais je pense qu'en termes d'impact, en fait, c'est déjà une star. En fait, honnêtement, Evan Mobley, il est vraiment pas loin d'être un all-star. Je sais que c'est difficile de comparer les joueurs, et que c'est, mais il est vraiment pas loin. En tout cas, sur ce qu'on voit là depuis 2 mois, quand vraiment il se développe, il est pas si loin que ça d'eux, en réalité. Je pense qu'il pourrait presque déjà le mettre à leur échelle.
En fait, je partage ce que tu dis, mais je pense qu'il y a une différence finalement entre ton impact sur le jeu, ton impact même sur le jeu et dans le jeu, et ton statut en fait. Et des fois, c'est pas tout à fait la même chose. Et là, effectivement, je pense que dans l'impact sur le jeu et les résultats, je partage plutôt ton avis, Antoine, ou en tout cas, s'il n'est pas à leur niveau, il est vraiment pas loin du tout. Après, il est encore trop jeune, je pense, pour avoir la gestion des moments, savoir prendre la main sur l'équipe. C'est pas
Le
toujours
bagage
simple.
offensif aussi.
Et finalement, effectivement, s'il jouait comme Paolo Banchero, peut-être que, enfin, dans l'attitude, hein, et moi j'aime beaucoup Paolo Banchero, c'est juste les équipes sont tellement pas dans les mêmes situations que c'est dur de comparer. Mais si vraiment il voulait prouver qu'il peut, tu vois, prendre le jeu un peu de force, je pense que ça irait sans doute à l'encontre des bons résultats de Cleveland. Donc là,
Bien
mais la
sûr.
question qui est intéressante, c'est parce qu'en fait, on sait pas encore qui il est, tu vois, un petit peu comme Scottie Barnes du côté des Raptors, on sait pas encore qui sont ces joueurs-là en termes d'ambition personnelle, d'attitude, tu vois. Donc c'est pour ça que j'aime bien la comparaison pour l'instant, en tout cas, on verra avec Chris Bosh, parce que finalement, Chris Bosh, l'une de ses grandes forces, ça a été de savoir se mettre au service d'un collectif et de se contenter d'avoir l'impact sur le jeu et sur les résultats. Et en même temps, on peut dire peut-être ce qui a manqué à Chris Bosh, au-delà malheureusement de sa blessure, enfin de son problème de santé qui a mis un terme prématuré à sa carrière, c'est peut-être aussi de ne pas avoir voulu plus voir jusqu'où il pouvait étendre ses ailes quelque part. Et c'est peut-être la différence. Alors, je dis un truc qui va sonner comme un sacrilège, mais c'est pas du tout. C'est vraiment pour l'image. Mais c'est peut-être un petit peu la différence entre un Chris Bosh et un Tim Duncan, en fait. Il y a une espèce de voie intermédiaire où tu peux arriver à te mettre au service du collectif tout en étant le meilleur joueur et que ça soit à l'entraînement tes adversaires, les mecs qui sortent du terrain, ils disent, ouais, non, mais c'est le 21 le meilleur. La question, elle se pose même pas, quoi. Qu'il ait mis 8 points ou qu'il en ait mis 27, en fait.
Après, pour Mobley, ça dépend beaucoup de sa défense, mais offensivement, je pense qu'il n'a pas le ballon aussi, parce que c'est un mec qui tire à 40% à mi-distance, c'est un mec qui prend pas 3 points, c'est un mec qui, même au panier, réussit jamais que 80% de ses tirs, alors que c'est beaucoup de paniers faciles qui lui sont donnés par les extérieurs. En fait, il est pas, pour moi, il est défensivement prêt à assumer le statut de leader des cavaliers. dans le sens où c'est déjà de loin le meilleur joueur défensif des Cavaliers. On voit son potentiel global, mais offensivement, il n'est pas encore prêt, je pense, à assumer une charge comparable, même de loin, à celle de Mitchell.
Il n'a pas la même panoplie offensive, c'est sûr. Ils ont, de toute façon, ils n'ont pas le même style de jeu. Mais tu peux le... Déjà, 40% à mi-distance, c'est solide. Hein. 40% à mi-distance, c'est vraiment solide.
Pour un mec qui en prend autant, parce que ça représente quand même 40% de son volume de tir aussi, c'est pas fou. Hein.
C'est quand même des tirs difficiles. Les tirs à mi-distance, c'est des longs de points. Ça reste un pourcentage plus que correct. C'est Kevin Durant a normalisé le truc en mode maintenant c'est du 55%, mais 40%, t'es parmi les meilleurs de la ligue en fait à mi-distance. Après, mais je suis d'accord, mais après, de toute façon, je chipote, je suis d'accord avec ce que tu dis. Il n'a pas la même panoplie. Mais je pense qu'en fait, ils peuvent l'intégrer sans forcément en faire un go-to guy, tu vois. Sans lui donner des ISO ou des possessions au poste bas, ce serait ridicule, tu vois. Ce serait pas l'idée. Mais juste vraiment essayer de passer par lui, quitte à ce que des fois, même juste, il marque pas, mais juste que la défense se souvienne. Ah putain, il y a ce mec qui est là, il est grand. Si on le laisse, il va finir près du cercle. Faut pas qu'on le laisse rouler. Faut pas juste que Evan Mobley, il se retrouve à rien faire dans les quatrième quart-temps, en fait. C'est plus ça que je veux dire.
Okay, Benjamin, t'as une maintenant.
Hein?
Non, je demandais justement à qui la question maintenant.
Vas-y Benjamin, si t'as une autre question dans la poche.
Bah écoute.
Dans la manche plutôt. Enfin, tu peux la garder dans la poche si tu veux, mais l'expression française plutôt dans la manche. Hein. Excusez pour la fatigue.
Il y a pas de problème. Hein. Je peux ranger mes questions n'importe où. Mais pour le coup, la question que je posais, moi, c'était plus un truc aussi individuel. On en a parlé beaucoup au début de la saison, le débat il s'est un petit peu estompé parce que justement il est en train de se régler. Est-ce que pour vous Nikola Jokic sera le triple MVP? Parce que effectivement en début de saison on entendait beaucoup de discours comme quoi c'était pas possible parce que ça le mettrait dans la catégorie d'un Larry Bird, ça le mettrait dans la catégorie d'un Will Chamberlain, c'était quelque chose d'historique et qu'on pouvait pas le donner à un mec comme Nikola Jokic qui avait pas encore fait quelque chose en playoff, etc, etc, etc. Mais à ce stade de la saison où il y a des blessures qui viennent durer notamment.
Parce que Shai en a parlé assez tôt.
Shai, le visionnaire, incroyable.
Qui en a parlé très tôt, je crois, cette saison. Ouais, Shai, très tôt, il en a parlé dans un truc en mode « Ah, mais Jokic, il pourrait être MVP. » Chaque mois qui est passé, en fait, t'es de plus en plus en train de te dire « Bah ouais. » Et là, moi, je crois que je suis presque au stade. C'est marrant, on avait une course ultra ouverte. Et là, t'as très bien fait l'état des trucs. J'ai l'impression qu'il y a surtout un mec qui se dégage, en fait. Mm. Donc ouais, moi, je suis quasiment sûr qu'il serait MVP, moi, perso.
Moi, je partage aussi, c'est un petit peu ce qu'on avait dit dans un podcast précédent, c'est s'il est en triple-double et que son équipe est première de la Conférence Ouest, je vois pas même comment tu peux justifier le fait de... Alors, c'est peut-être absurde de se baser que là-dessus, mais c'est bien sûr, je me base pas uniquement là-dessus, c'est aussi par rapport à ce qu'il a pu montrer, sa régularité dans les performances. Non seulement je pense qu'il peut complètement réaliser ce triplé, et en plus je trouve que ce serait totalement mérité. Je vois pas, effectivement, on en avait parlé un petit peu avec toi Benjamin, de l'absurdité parfois de se dire bah, comme ça voudrait dire que c'est comme Larry Bird, mais on sait pas s'il va faire la carrière de Larry Bird. Au bout du compte, c'est pas la question, elle se pose pas comme ça en fait. C'est est-ce que tu as été le meilleur joueur de la saison, et ça devrait se poser chaque année en fait, sans que tu réfléchisses forcément à ce qui s'est passé par le précédemment, je veux dire. Voilà, les Nuggets sont réguliers, lui il est tout le temps là, il est tout le temps aussi régulier, il peut avoir des blessés ou pas autour de lui, son équipe continue de gagner. Pour moi c'est le MVP, ouais. Ce qui veut pas dire, ouais. Puis voilà, pardon, après je te laisse la parole.
Je t'en prie.
C'est faut se rappeler que être le MVP ou être le meilleur joueur ou être le plus grand joueur, c'est tout ça, c'est des questions qui sont différentes avec des réponses qui peuvent être différentes. Moi en tout cas, pour moi, je pense que c'est le MVP cette année, ouais.
Et puis on en arrive quand même à un stade où effectivement, il a tous les critères dans le sens où on élimine les joueurs qui ont manqué trop de matchs comme Kevin Durant qui a été merveilleux, mais donc qui aura pas de nombre de matchs un petit peu pour se qualifier virtuellement pour la récompense. Donc lui, il a ce critère-là. Il a le critère du bilan parce que c'est simplement un des meilleurs bilans de la Ligue, juste derrière les Celtics et les Bucks. Il a les chiffres. La saison triple-double, qui n'a pas été faite depuis Westbrook, avant ça, Robertson, ça reste quelque chose d'assez iconique. Dans ses chiffres personnels, il a progressé, il est plus efficace, c'est le maître à jouer des, c'est le maître à jouer des nuggets. Dans l'impression visuelle, tu as l'impression que tout est facile, qu'il ne force rien, qu'à chaque fois, il prend les bonnes décisions, qu'il implique bien ses coéquipiers, qu'il score bien, qu'il fait tout bien. Il a fait des progrès défensifs. Donc, dans la plupart des stats, c'est lui qui est leader sur le plan offensif. En termes défensifs, ça s'arrange plutôt pas mal pour lui. Donc en fait, on en arrive vraiment à un stade, je trouve, où il y a presque plus d'arguments en fait, pour dire que Nikola Jokic n'est pas le MVP de la saison. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais poser la question. Parce que je trouve qu'à ce stade, ça devient quasiment indiscutable.
Ouais, je pense qu'on y est. Ouais. En tout cas, comme disait Théo, c'est mérité.
Je serais vraiment très surpris au bout du compte si c'était pas lui qui était élu MVP. Je serais curieux de voir les arguments avancés en fait pour quels arguments ça pourrait être. Parce que tu parlais de Kevin Durant, je vais pas jouer le polémiste, mais au-delà du fait d'avoir raté des matchs, est-ce que tu peux voter comme MVP un mec qui demande à changer d'équipe? Parce que le but du MVP c'est quand même de faire gagner son équipe. Donc si tu demandes à être transféré en cours d'année, est-ce que tu peux encore même être dans la discussion pour le trophée de MVP?
Mais en fait, limite, là, les deux... Ouais, ben non, je pense que Kevin Durant, de toute façon, c'est mort. J'ai l'impression que les deux ou trois concurrents, c'est Tatum, Embiid et Giannis, quoi. Giannis, parce que les Bucks reviennent très fort. Et Giannis... Ouais, et Doncic, mais au final, Doncic, il a des stats moins impressionnantes que celles de Jokic, et son équipe est moins bien classée, tu vois. Donc, tu pourrais vraiment aller t'appuyer juste en disant, ouais, ben, je pense que Lucas, c'est le meilleur joueur de la Ligue, donc mon MVP, si je le donne au meilleur joueur, tu sais, il y a un peu ces partisans, comme pour le Ballon d'Or, mais le Ballon d'Or, c'est le meilleur joueur à l'instant T, c'est pas vraiment celui qui a fait la meilleure saison. Mais ça, sur le nombre de votants, je pense que c'est minime. Donc je vois même pas comment Doncic en fait il peut passer devant Jokic. Donc il resterait éventuellement Embiid, moins bon bilan, moins de matchs joués. Je crois que même les stats elles sont moins bonnes. Giannis, enfin, en fait, j'ai Tatum pour le côté meilleur joueur de la meilleure équipe. Mais je trouverais ça très bizarre. Je trouverais ça bizarre à avancer en mode 1, mais Tatum, quand même, les Celtics, c'était très fort. C'était le meilleur joueur de cette équipe. Alors qu'en plus, il n'y a même pas une très grosse différence de bilan, d'ailleurs, au passage entre Denver et Boston. Ça se joue sur 1% de différence entre les deux au niveau du bilan. Donc, c'est même pas dit que Boston finisse avec un meilleur bilan que Denver à la fin de l'année. Donc, ouais, je suis d'accord avec Benjamin. Je pense que ça devient indiscutable. Moi, j'ai une question, je vais mettre le pied dans le plat. On en a déjà parlé, on a fait tout un podcast avec Benjamin. Et c'est sur Russell Westbrook. Donc, on a fait un podcast, on en a parlé, et on était plutôt d'accord, d'ailleurs. On était plutôt d'accord sur tous les deux pour dire que ça peut être une bonne recrue pour Los Angeles. Et c'est marrant, tu vois, dans le podcast, je crois que tous les deux, d'ailleurs, on avait mis des conditions sur lesquelles... qu'est-ce qui ferait que ça serait pas forcément la meilleure recrue possible. Et alors je vais essayer de pas m'abuser trop la parole. Hein. Je vais découper mes prises de position. Mais là, on se dirige. J'ai pas vraiment une question. C'est plus un constat. J'ai l'impression qu'on se dirige pile vers le pire scénario que j'avais imaginé. Et j'aime bien les Clippers. Donc je vous avoue que ça m'embête. C'est même pas que je les aime bien. C'est que ça fait un moment que je crois en eux. Donc je pense qu'ils sont capables de quelque chose. Et je vais essayer de m'expliquer un peu plus. On a depuis hier des déclarations de Tyronn Lue notamment en mode non mais Westbrook, on veut qu'il soit le joueur qu'il a toujours été, on veut qu'il soit le joueur qu'on connaît, c'est un Hall of Famer, c'est Monsieur Triple Double, c'est un titulaire. Tout plein de déclarations dans ce sens. Alors je pense que c'est surtout des effets d'annonce, hein, que c'est pour c'est notamment pour flatter un peu l'ego de Westbrook qui a quand même été chahuté avec les Lakers. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a besoin de chahuter, pourquoi il y a besoin de flatter son ego, alors que je pense que vraiment dans la situation dans laquelle il arrive, toutes les discussions devraient être vraiment sur ce côté, il va devoir s'adapter, parce qu'il en a parlé aussi, hein, Tyronn Lue, t'as raison, Benjamin, je sais que tu me l'as dit en off.
Il l'a dit aussi,
mais je pense que toutes les discussions devraient être là-dessus, sur l'adaptation et pas sur on a une star, c'est un Hall of Famer, c'est Monsieur Triple Double, parce qu'en fait, si les Clippers le voient comme ça, je pense que c'est très problématique. Et j'ai l'impression, c'est comme si vous voulez, ce mec ou cette nana qui a trompé tous ses partenaires, mais sa nouvelle partenaire, je m'excuse pour la métaphore, est persuadé que ça va changer. Alors qu'en fait, le problème, apparemment, il est psychologique, ça vient d'autre part, tu vois. Et c'est comment t'as pas vu tout ce qui s'est passé, pourquoi ça ne s'est pas. Je veux dire, si Russell Westbrook, c'était encore Monsieur Triple Double, c'était encore une star, et c'était tout le Hall of Famer, tout le bien que tu dis de lui, Mais dans ce cas-là, tu ne l'aurais jamais signé. Il n'aurait pas été coupé. Il n'aurait pas été transféré 5 fois en 5 saisons. Il n'y a pas qu'au Lakers que ça n'a pas marché, tu vois. Et toutes ces déclarations de Lou, de Tyronn Lou, pardon, me font un peu peur parce que j'ai l'impression qu'ils vont le voir comme une star et je pense que c'est l'erreur. Et comment dire, ça me fait, je vais finir là-dessus, après je vous laisse la parole, c'est exactement le même scénario que 6 mois en arrière, quand Darvin Ham, il fait tout plein de déclarations tout l'été, on s'en est mangé les news, tout l'été, Russell Westbrook, c'est un Hall of Famer, il faut le laisser jouer comme il est, c'est une star, c'est un titulaire, c'est une machine à triple-double, une machine à stats, tout l'été. 6 mois après, les Lakers, ils l'ont transféré. Je veux dire, j'ai peur, et les Clippers n'auront pas ce luxe, même s'ils ne le payent pas 47 millions. Donc bref, voilà, je vais vous laisser la parole, j'ai d'autres choses à dire sur Westbrook, mais juste, est-ce que...
Je croyais que tu allais dire, j'ai d'autres choses à faire, je vous laisse la parole, j'ai d'autres choses à faire que de parler avec vous.
Sur toutes ces déclarations, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu?
N'étant pas quelqu'un qui note le nombre d'écrans posés par Russell Westbrook quand il n'a pas le ballon, etc., et qui... Là, tu vois un petit peu le côté pessimiste, je trouve, de la conférence de presse. Je vais faire l'inverse, je vais prendre le côté optimiste de la conférence de presse et je vais prendre le truc un petit peu à revers. Moi, ce que je retiens de ce qu'a dit Tyronn Lue, c'est le fait qu'il insiste notamment sur le fait qu'il devrait trouver ses coéquipiers de 1 et de 2, faire en sorte de savoir quoi faire sans la balle pour qu'il soit impactant, même quand il n'a pas le ballon. Alors oui, ok, il a eu effectivement les déclarations pour dire qu'il aurait la balle, que c'était un Hall of Famer, que c'était un MVP, que c'était Russell Westbrook et qu'il fallait que Russ soit Russ, c'est le nouveau slogan des Clippers, et il est absolument partout dans toutes les bouches, Nicola Batum, Paul George, du coup Tyronn Lue, etc., etc. Mais je pense qu'en réalité, il y a une vraie conscience de ce que Russell Westbrook doit faire pour ses Clippers. Il suffit de voir ses déclarations à lui, dans lesquelles il dit tout de suite, et c'est pas du tout la mentalité dans laquelle il est arrivé aux Lakers, je vais faire ce qu'on me demande, je vais faire ce qui va arranger mon équipe, et je vais faire ça au mieux de mes capacités, et en faisant ça de cette manière, j'espère que tout va bien se passer. C'est pas la mentalité dans laquelle il est arrivé aux Lakers en tant que troisième star d'un trident un petit peu all-time avec LeBron James, Anthony Davis, etc. Là, je pense qu'il arrive déjà avec un petit peu plus d'humilité et un peu plus de conscience de ce qu'on attend de lui. Ensuite, il y a aussi la déclaration dans laquelle il dit vraiment « Je vais faire en sorte d'aider les autres gars, je vais trouver leur spot, je vais rendre le jeu plus facile pour eux. » En gros, texto, je vais pénétrer dans la raquette et je vais envoyer le ballon dans leur spot et ça va être mon taf la plupart du temps. Et en vrai, c'est comme ça que je vois Russell Westbrook. Avec la seconde unit, parce qu'on en a parlé effectivement, mais c'est comme ça que je vois Russell Westbrook. Et même si Russell Westbrook commence, ma question c'est plus, est-ce qu'il commence et il reste tout le temps avec Kawhi Leonard et Paul George, ou est-ce qu'il commence et comme dans plein d'équipes qui ont des joueurs importants mais qui ne fitent pas exactement, il va occuper les minutes sans Kawhi ou sans Paul George ou sans l'un d'entre eux. Je pense que moi, je vois plutôt comme ça, un petit peu comme Kyrie Irving et Luka Doncic, où effectivement, il y a quand même ce truc où tu es obligé de faire starter Russell Westbrook parce que tu le considères comme une légende. La dernière fois, tu avais eu une métaphore tout aussi lunaire que celle que tu viens de sortir, où tu disais que par habitude, tu faisais des siestes. Effectivement, par habitude, effectivement, tu vas mettre Russell Westbrook titulaire. Et je pense que tu vas surtout l'utiliser quand tu n'as pas Paul George sur le terrain, parce que c'est le créateur des Clippers actuellement. Quand tu n'as pas Kawhi Leonard sur le terrain, éventuellement parce que tu auras plus de temps pour lui donner le ballon, etc. Et je ne pense pas que les déclarations de Tyronn Lue veuillent dire qu'il va mal utiliser Russell Westbrook. Donc, en voyant ça d'une perspective beaucoup plus optimiste, je pense que Russell Westbrook aux Clippers, ça peut bien fonctionner et qu'il va s'intégrer plutôt correctement dans l'équipe, dans laquelle quand même il y a une hiérarchie qui est extrêmement claire de Kawhi Leonard, Paul George, tout le reste, c'est des role-players plus ou moins. Et Russell Westbrook, maintenant, fait partie des role-players. Il va devoir s'adapter à son rôle. C'est mon analyse, en tout cas.
Alors, tu parlais d'inquiétude, Antoine. Moi, en fait, l'inquiétude que j'ai, elle est pour Russell Westbrook, parce que, en fait, tout dépend du potentiel que tu prêtes aux Clippers. Si tu penses que les Clippers ont tout pour aller au bout, tu peux voir les choses d'une certaine manière. Moi, je prête pas ce potentiel aux Clippers. En fait, j'ai trop d'interrogations sur cette équipe depuis plusieurs années pour vraiment y croire à fond. Donc, en fait, quelque part, je pense pas que l'arrivée de Russell Westbrook change grand-chose. Par contre, je trouve que Russell Westbrook a vraiment une bonne tête à chapeau si à un moment, il faut faire porter le poids de l'échec de la saison à quelqu'un. Et que si, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, Benjamin, sur les « let Russ be Russ ». Non. Si tu veux qu'il soit Russell Westbrook 48 minutes, il faut que tu construises l'équipe autour de lui. Je pense que c'est toujours un bon joueur de basket, un joueur de basket qui peut aider une équipe, mais il a un skill set tellement particulier qu'il faut que l'équipe soit faite en fonction de lui. Je pense que l'exemple de l'exemple avorté avec les Lakers a montré qu'il n'avait pas cette capacité pour l'instant, en tout cas, à pouvoir vraiment s'adapter suffisamment. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir un rôle pour les Clippers. Je pense qu'il peut avoir un rôle, mais il faut que ça soit un petit peu comme si c'était une mini-équipe. Enfin, le 5 qui est autour de lui, que soit comme une mini-équipe qui soit faite pour que ça colle avec ce qu'il apporte. Parce qu'effectivement, s'il dit « je vais pénétrer, donner la balle ici, là », le truc, c'est que les mecs vont le laisser juste pénétrer, en fait, et qu'il pourra donner la balle nulle part, parce que il a quand même plus tout à fait la même explosivité, la même réussite en attaquant le cercle. Donc, tu peux pas juste lui dire « sois toi-même », sauf si tu veux pouvoir dire au bout d'un moment « ouais, mais c'était pas un bon choix d'avoir fait venir Russell Westbrook, finalement, il nous a pas apporté ce qu'on espérait pour aller au bout ». D'autant qu'avec l'arrivée d'Eric Gordon dans le même moment, je me dis, là, il y a un guard qui est vraiment compatible avec le projet des Clippers, que tu peux faire finir les matchs, en fait. Je pense qu'Eric Gordon peut finir les matchs avec les deux autres. Alors que Russell Westbrook, si tu veux le faire venir, si tu veux qu'il t'aide, et je pense que c'est possible qu'il aide les Clippers, mais c'est dans un rôle hyper spécifique. Et je ne comprends pas bien la méthode en termes de communication que ça peut être de dire il va être starter et on va le laisser jouer comme on veut le faire jouer. Je pense même que, après tout dépend, c'est un joueur tellement clivant. Moi j'aime bien Russell Westbrook, en fait. Pour moi je le vois comme un battant, comme un mec qui va au charbon. Et je pense qu'un mec comme ça à ce stade de sa carrière, il peut comprendre si tu lui dis écoute, ton rôle maintenant ça va être avec la deuxième unit. Quand tu vas venir, il faut que tu boostes, on compte sur toi, ça va être ton moment de briller, de porter l'équipe pendant 5-7 minutes, et après hop, tu vas sortir et puis tu vas être dans la rotation comme ça. Je pense que tu peux accepter ce rôle-là, en fait. Tu peux te dire, c'est le mien. Tu vois, finalement, Carmelo Anthony, c'est ce qu'il avait réussi à faire à la fin, en fait, au bout du compte. Parce qu'il n'avait pas du tout réussi à faire.
Parce qu'on lui a répété en boucle.
Voilà, mais finalement, il y a un moment où il est arrivé dans une équipe qui voulait de lui, comme là, c'est le cas aux Clippers, une équipe qui voulait pouvoir compter sur lui.
Et c'était sa dernière chance.
Mais c'était un rôle clair, en fait.
Exactement.
Le rôle était clairement défini. Et donc, c'est pour ça que je m'interroge quand même. En fait, ce n'est pas que je suis entre vos deux avis à tous les deux, Antoine et Benjamin. C'est que je pense que je ne suis pas sûr que l'arrivée de Russell Westbrook fasse vraiment une différence pour les Clippers. Par contre, en cas d'échec, je me dis... c'est peut-être mon esprit un peu machiavélique qui me fait me dire je vois certains responsables qui pourront faire porter la responsabilité à quelqu'un d'autre qu'à eux.
Alors du coup je vais donner, parce que j'ai pas donné tout mon avis sur Westbrook, d'ailleurs dans le podcast qu'on a fait j'étais plutôt positif et c'était vraiment avant ces déclats, et c'est pour ça que je ramène le sujet, c'est parce que moi c'est les déclats qui me font peur, parce que je suis entièrement d'accord, je pense que Westbrook ça peut être une bonne recrue, ça peut être une bonne recrue si c'est le leader de ta deuxième unité. Ça, j'ai pas de souci là-dessus, je le disais déjà dans le podcast, tu l'entoures avec Mason Plumlee, avec des shooters, ça va marcher, il va faire du Westbrook, il va apporter quelque chose. Par contre, et c'est là où pour moi, tu as mis exactement le doigt sur le truc, c'est que la communication, elle est pas bonne. Pour moi, là, ils sont dans une position, ils ont pas besoin de flatter l'ego de Russell Westbrook. Westbrook, je pense qu'il est conscient que quelque part, quel était le marché pour Russell Westbrook ? Il se fait transférer 5 fois de suite, il n'y a personne qui en vient via un trade quasiment. Il se fait couper, et qui est intéressé ? Le Heat, les Clippers et les Bulls. Dans le lot, il y a 2 équipes qui jouent le play-in. Le Heat et le Bulls, qui sont désespérés de relancer leur saison. Et il y a les Clippers.
Le Heat, quand même, n'est pas dans la même catégorie que les Bulls.
Peut-être, mais c'est quand même une équipe qui va sans doute passer, qui va peut-être passer play-in. Et au final, le Heat, eux-mêmes, n'avaient pas le plus grand intérêt pour Westbrook. Le nom a été avancé, mais on a vu que ce n'était pas l'équipe la plus intéressée par Westbrook. Et du coup, en fait, pour moi, c'est des indices qui te donnent un truc. Et les Clippers, j'ai l'impression qu'ils vont à l'opposé, en mode « Non, non, mais c'est une star, c'est les autres qui n'ont rien compris, c'est une star. » Et moi, cette communication, elle me gêne. Parce qu'en fait, là, ils sont dans une position où Westbrook, il sait sans doute quelque part, en tout cas, j'espère qu'au fond de lui, parce que moi aussi, j'aime bien ce joueur. Et laisser Russe être Russe, c'est un article que j'ai écrit pour le coup. Laisser Russe faire du Russe, je crois que c'est un article... Ouais, Russe, bon, pardon, mais Russ... C'est un article que j'ai écrit, je crois, en 2017 ou 2016, pendant des playoffs. Moi aussi, j'ai longtemps défendu Russell Westbrook. C'est un joueur que j'aime bien, c'est un mec que j'aime bien. Parce que je pense que c'est vraiment un homme intéressant. Et là, je pense que ça peut être une bonne recrue s'il sort du banc. Par contre, ça peut être une excellente recrue si tu le pousses, si tu le forces à s'adapter, si tu lui fais comprendre. Non, mais mon gars, si tu ne fais pas ça, tu n'auras plus ta chance en NBA. Si tu ne te mets pas à embrasser un rôle à la Bruce Brown ou à la Gary Payton 2, où tu poses des écrans, c'est pour ça que Zach Lowe revient dessus.
Ça commence.
Oui, mais attends, mais ça serait la superstar, tu ne te rends pas compte. Ça serait la superstar de ce rôle. Ça serait Russell Westbrook, s'il faisait du Draymond Green, il serait monstrueux. Et je ne dis pas ça de manière péjorative. Au contraire, il serait. On a vu comment Gary Payton a été encensé. Russell Westbrook, il a 10 fois le talent de Gary Payton. Il peut être monstrueux dans ce rôle. Mais il n'y a personne qui le pousse à faire ce rôle, à part les médias. Quand il arrive dans un club, c'est toujours « Ah non, mais c'est une star ». Et après, boum, ah bah on ne sait pas quoi en faire, ah bah on le sort du banc, ah bah ça ne marche pas, ah bah c'est le bouc émissaire. Là, les Clippers, ils ont cette position. Ils ne vont pas le faire. Donc, ils vont pas le faire. Donc ça, c'était pour être une excellente recrue. Mais je pense que s'il sort juste du banc, je trouve ça bien aussi. Mais visiblement, ce n'est pas ce qu'ils vont faire non plus. Parce qu'à partir du moment où tu parles de Monsieur Triple-Double, de star, etc., c'est quelque part, à la limite, qui démarre les matchs, je m'en fiche. Tu vois, je vais te dire, je m'en fiche. Pourquoi pas? Par contre, ce qui me fait peur, c'est que si tu le considères comme ça, c'est que tu vas me faire terminer les matchs. Tu parles de hiérarchie, mais tu ne parles pas d'un role player en disant c'est une star, c'est un MVP, c'est un monsieur triple-double. C'est pas un rôle. En fait, ils n'ont pas l'air de le considérer comme un role player. Alors peut-être que c'est que de la com, hein. Peut-être que ça ne sera pas comme ça dans les faits. Mais en attendant, ils vont là, c'est parti pour qu'ils le fassent terminer les matchs. Et Russell Westbrook qui fait du Russell Westbrook en fin de match, c'est catastrophique. C'est des mauvais choix, c'est des balles perdues. Comme a dit Théo, les autres équipes, ben, elles vont le laisser aller au cercle. Il est de moins en moins efficace au cercle. Il est bien sûr qu'il peut encore marquer, mais c'est plus le Russell Westbrook de 2015. Et juste une petite chose, parce que Paul George, qui a l'air tellement enflammé sur son passage avec Westbrook à Oklahoma City, cette équipe, elle se fait sortir au premier tour par les Blazers. Je l'ai vu cette série, je l'ai vu en entier. C'est même pas la plus grosse équipe des Blazers. Elle se fait sortir au premier tour par Portland. Elle perd pas contre Golden State. Elle fait sortir par Damian Lillard. Je veux dire, et c'est plus le même Russell Westbrook. Hein. Russell Westbrook, il est nettement moins explosif qu'à cette époque. Donc, Paul George, il est nostalgique d'un truc qui n'existe même plus. Moi, franchement, cette communication, j'arrête là-dessus, mais vraiment, ça me fait peur. J'ai peur qu'ils le fassent terminer les matchs et que du coup, ça ne marche pas et qu'ils vont se plomber eux-mêmes. Je pense qu'il y a un vrai potentiel aux Clippers.
Je crois que je t'ai jamais vu aussi pessimiste, etc., sur un truc. Mais je comprends tout ce que tu dis. Et pour revenir sur ce truc qu'on répète constamment, du coup, nous aussi, par la force des choses, de Russ doit être Russ, Théo a soulevé un truc intéressant qui était le fait que si Russ doit être Russ, c'est dans un effectif qui est construit autour de lui, une sorte d'équipe qui tourne autour de Westbrook. Et en fait, je pense que les Clippers sont une équipe faite pour Westbrook. Ce n'est pas une équipe qui va tourner autour de Westbrook, mais c'est une équipe qui est adaptée à Westbrook. Si on prend le cas des Lakers, par exemple, sur les joueurs qui étaient là quand Russell Westbrook était là et qui ont joué sur un temps de jeu conséquent et qui ont mis plus de 2-3 points par match, enfin tenté plus de 3 points par match, il y en a deux qui tiraient à plus de 37% à 3 points. Seulement deux. On sait que cette équipe a un problème de shoot, c'est terrible, et Russell Westbrook est un joueur qui a besoin de shooters autour de lui. On prend l'effectif des Clippers. On a Norman Powell, Paul George, Kawhi Leonard, Marcus Morris, Nicolas Batum, maintenant Eric Gordon, qui sont tous des shooters à plus de 37% au shoot, même 37,5 si on veut être précis.
À 3 points, tu veux dire.
À 3 points, exactement, oui. Et on peut même rajouter Brandon Boston Jr., mais bon, voilà, le mec a joué 20 matchs, il est encore très jeune, il n'a pas sa place dans cet effectif. En tout cas, l'effectif est clairement équipé de shooters. Donc dans ce contexte-là, je pense que Westbrook, dans ce jeu-là, dans ce côté un petit peu unidimensionnel, quand il a le ballon, de pénétrer, certes avec moins d'efficacité qu'avant, et kick out le ballon, il peut le faire. Et puis au-delà de ça, ok, c'est plus le joueur de 2017, c'est plus le joueur qui a été MVP ou celui qui a pris avec le Thunder, mais ça reste un joueur qui, je pense, est quand même capable d'aller mettre des layups, et il aura beaucoup moins de difficultés à le faire avec les Clippers qui stretchent beaucoup plus le terrain qu'avec les Lakers, sur lequel c'est archi compact parce que tu joues à côté d'un Anthony Davis sur une jambe qui met plus ses 3 points, d'un LeBron James à 31% à 3 points. En fait, dans un jeu où Westbrook peut être le focus de la défense ou au moins de 1-2 défenseurs. Dans cette équipe des Clippers, Westbrook, c'est un élément à côté de mecs qui sont tellement plus dangereux que lui qu'il pourra exercer son rôle de créateur comme il faut. Moi, je suis assez optimiste aussi parce que je pense que les Clippers, en fait, ont l'équipe de 1, comme je l'ai dit, pour calmer Westbrook et en fait faire ce que tu as dit, Antoine, c'est-à-dire lui dire reste à ta place, maintenant tu connais ta place. Si tu veux continuer en NBA, il faut que tu t'adaptes à un nouveau rôle, que tu acceptes, comme tu dis, d'être un Bruce Brown. De luxe.
Ça, j'ai dit ça, c'est l'excellente option. Je pense pas qu'il fera ça. Ça, j'y crois pas une seconde. Je pense qu'il le fera jamais.
Je pense pas qu'il fera autant de compromis, tu vois, mais je pense qu'il va quand même en arriver là. Enfin, moi, c'est en tout cas. Ok, c'est peut-être moi qui projette des fantasmes, tu vois. C'est possible aussi. Mais je reste optimiste là-dessus et sur le fait qu'il va accepter un rôle qui lui correspond. Et au-delà de ça, je pense que quand bien même il le laisserait être Russ, ça correspondrait pas mal au jeu des Clippers et qui pourrait réussir à être un bon Russ et surtout un meilleur Russ que celui qu'il a été aux Wizards, aux Lakers et puis sans jouer un match au Jazz, mais bon, Comptons-le quand même.
Au Wizards, il n'était pas si mauvais que ça. Hein.
Ouais,
ils
au
avaient
Wizards,
quand même
il était
beaucoup
bon.
Aidé,
ouais.
Hein, au bout du compte.
Bien sûr.
Les
oui,
Lakers,
ils avaient
c'était
beaucoup
la
aidé,
pire
mais...
équipe pour lui. C'est ce qu'on a dit, dès le trade, en fait. C'était le choix qui avait le moins de sens.
Mais juste, moi je vous le dis, je pense que Westbrook, il va faire des stats. Je pense que ça va. En fait, je pense qu'il va sortir du banc, ou en tout cas, quand il va être avec la seconde unit, ça va marcher. Comme tu l'as dit, il y a des shooters autour. Je pense que tu l'entoures de Gordon, de Batum, de ces mecs-là, ça va marcher. D'ailleurs, j'y pense, j'ai vu une autre d'éclat de Tyronn Lue où il est optimiste sur son association avec Terrence Mann. Je pense que les deux, il ne faut absolument pas les faire jouer ensemble. Tu te retrouves avec deux non-shooters sur le terrain, mais bref, peu importe, ça c'est Tyronn Lue. Pourtant, je pense que c'est un bon
Plus un
coach.
grand, hein, potentiellement.
Ouais, c'est plus Ivica Zubac, t'imagines. Juste un petit truc sur. Parce que vraiment, je pense que Westbrook va être bon, il va faire ses stats. Là où j'ai peur, c'est vraiment, comme je le dis, sur. Je pense playoff en fait quand je pense Clippers. Je pense playoff et je pense même pas premier tour. Je pense qu'est-ce qui va se passer game 5, game 6 des séries. Et Paul George et Kawhi Leonard sont des bons shooters à 3 points, mais tu ne veux pas qu'ils jouent en spot-up. Tu peux pas, dans le quatrième quart-temps, te contenter d'avoir Paul George et Kawhi Leonard qui attendent la balle. Ça se passera jamais comme ça. Et je vais te dire un truc. Russell Westbrook, regardez avec qui il a joué dans sa vie. Avec Kevin Durant, avec James Harden, avec Bradley Beal, avec LeBron James, avec Anthony Davis, maintenant avec Paul George, avec Carmelo Anthony, là avec Kawhi Leonard. Il n'y a pas beaucoup de stars qui ont eu autant de mecs aussi forts à leur côté dans leur carrière. Il a joué une finale NBA avec Kevin Durant. Quand il y avait Kevin Durant autour de lui, Russell Westbrook, il prenait des ballons. Et je le défendais à l'époque. Et j'ai aimé cette période. Mais déjà, quand il y avait Kevin Durant à son absolute prime, il ne lui passait pas la balle sur certaines situations. Là, les Clippers, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir Kawhi Leonard et Paul George qui attendent la balle pendant que Westbrook, c'est lui qui mène le jeu. C'est pas possible. Dans le Money Time, c'est pas possible. Ça ne marchera jamais. Ça marchera, mais pas assez pour gagner. C'est pour ça que je dis ce qui me fait peur, c'est pas la seconde unit, c'est pas les stats de Westbrook, c'est vraiment pas ça. C'est juste le Money Time. Si c'est lui qui choisit à la place d'Eric Gordon, parce que je trouvais qu'Eric Gordon, je suis d'accord avec toi, pour moi, c'est une super option en fin de match pour les Clippers. Si c'est lui qui est là à côté, j'ai peur. J'ai peur parce qu'il ne va pas poser des écrans, je reviens là-dessus, mais en tout cas, il ne va pas jouer sans le ballon. Il ne va pas être une menace sans le ballon. Non, donc non seulement il ne va pas jouer sans le ballon, ni en coupe, ni en écran, ni tout ça, il ne va pas le faire. Quand j'ai dit t'es jeune, c'était une manière de dire, en fait, c'est ironique, hein, c'est pour dire, en fait, passé 30 ans, à un moment, il y a des trucs que tu ne changes plus. Russell Westbrook, il ne changera pas.
En fait,
Il ne changera pas.
c'est surtout pour
Il ne
des
changera
stars qui ont
pas.
été habitués à avoir la balle, c'est
Mais
très
bien
rare, en
sûr.
fait. Honnêtement, à part
Mais c'est pas
peut-être,
contre lui en plus,
bien
non.
sûr, mais peut-être à part Dwayne Wade et Vince Carter, je sais pas
Mais
si
Dwayne
j'ai
Wade a
vu.
changé avant ses 30 ans, au passage. Pardon, Théo, je te coupe, mais il a changé avant ses 30 ans, Dwayne Wade.
Au moment où du
Oh, LeBron arrive.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que des joueurs qui ont été habitués à être des All-Stars qui ont été habitués à avoir la balle entre les mains, c'est peut-être les deux seuls exemples, avec Ray Allen, trois, de joueurs qui ont eu
Carmelo Anthony
l'intelligence.
aussi, quand même.
Qui?
Ouais, mais
Carmelo
très
Anthony,
tard,
mais
Carmelo.
oui,
Anthony. Très, très tard.
Moi,
tardivement,
Carmelo,
mais
honnêtement, je le mettrais même pas dedans parce que pour moi, c'était trop tard en fait.
c'était trop tard, mais on parle quand même d'un joueur qui a un ego encore plus grand que celui de Westbrook. Et si on fait un top 10 des plus grands egos de l'histoire de l'NBA, on pourra sans doute glisser Carmelo Anthony dedans, quoi. Donc même pour lui, c'était possible de s'adapter. Donc peut-être que Westbrook
Mais
peut
je
faire
pense
aussi.
pas qu'il
Ah,
l'ait fait en fait
après parce qu'il
9 mois
s'est
sans
adapté à un
club,
moment où
quoi.
il aidait plus vraiment à gagner en fait. Moi, je parle de joueurs qui ont su se transformer et aider des équipes à gagner. C'est extrêmement dur et je pense que ça demande un autre type de skill set, d'intelligence et de
Intelligence.
et honnêtement, je pense pas que ça alors que encore une fois, moi j'aime beaucoup Westbrook, mais je pense pas que ça fasse partie de son package. Et en fait, ce que je trouve dommage, c'est que pour être positif, j'ai l'impression que Westbrook, il a peut-être ce qui manque le plus aux Clippers, c'est il a du cœur. Parce qu'en fait, cette équipe, je la regarde, je me dis, mais c'est qui le leader dans cette équipe? Qui est-ce qui va rameuter les gens autour de lui? Qui est-ce qui va booster tout le monde? Et en fait, il y a eu Pat Beverley, mais ça peut pas marcher. Je suis désolé. C'est malheureusement, il y a une question de hiérarchie d'équipe en fait. Tu peux pas être juste le mec qui aboie et être le leader de l'équipe. Ça marche pas en fait. Si tu veux être ça et pas beaucoup jouer ou avoir un rôle minime, faut que tu sois là depuis Mathusalem comme Udonis Haslem. Sinon, ça peut pas marcher. Et en fait, cette équipe-là, je me dis bah. Ouais, là, lui, c'est un vrai leader de meute, quelque part. C'est un mec qui peut rameuter autour de lui et qui va, tu lui donnes, enfin, tu sais, qui va croire dans la victoire jusqu'à la dernière seconde. Mais je sais pas, tu vois, comment, en fait, son rôle pourrait être suffisamment important à l'heure de sa carrière pour que ça puisse aider vraiment les Clippers, en fait, à leur faire passer ce cap-là. Parce que c'est vrai que, fin de match serré, qui est-ce qui va c'est qui le ouais c'est qui le chef de bande en fait dans cette équipe des Clippers? J'aurais tendance à croire, alors là j'ai pas d'infos inside, mais tu vois, je me dis, eh ben, Batum, en fait, il joue un peu ce rôle-là de ce qu'on a entendu dire de droite et de gauche dans cette équipe, tu vois, mais c'est pas non plus... lui aussi, il a un rôle un peu... il a un rôle très important, mais c'est pas non plus l'un des leaders... enfin, comment dire... comment dire... établi, en fait, de cette équipe. Donc, ouais.
Je pense qu'en fin de match, ça a juste besoin de Tyronn Lue qui joue son rôle de gestionnaire d'ego, de capitaine un petit peu... officieux de cette équipe, et puis de Kawhi Leonard qui est le leader par l'exemple et qui prend le ballon. Et en fin de match, de toute façon, je suis d'accord avec sur ce point-là avec Antoine, clairement, c'est en fin de match, le ballon est entre les mains de Kawhi Leonard ou Paul George, jamais entre les mains de Russell Westbrook, effectivement, et je pense que c'est ce qu'il faut conserver. Et si tu conserves ça, tu peux laisser Russell Westbrook être un leader avec la seconde unit, être une sorte de... avoir du cœur à l'entraînement aussi. D'ailleurs, on le voit déjà, on a vu une vidéo avec Marcus Morris où il encourage à mettre 30 tirs ouverts à 3 points. Bon, je ne suis pas sûr que Russell Westbrook ait un si grand rôle à jouer là-dedans que ça. Mais en tout cas, il essaie quand même d'apporter ce que tu dis, justement, un petit peu de cœur, etc. Donc, je pense qu'il pourra le faire à sa mesure, en fait. Et ça suffit. S'ils arrivent à ajouter, à faire en sorte que Westbrook ajoute un petit peu d'identité, un petit peu de hustle, s'ils arrivent à le faire fonctionner sans ballon et qu'ils arrivent à le mettre dans un rôle qui lui correspond avec la seconde unit et sans les deux stars sur le terrain, je pense que ça peut être un succès et que ça peut être une super signature pour le minimum en plein milieu de la saison. On fait difficilement plus prometteur, en tout cas.
De toute façon, je suis d'accord avec ce que tu dis là. C'est pour moi, les Clippers ont potentiellement pas grand chose à perdre, en fait. C'est dans ce deal. Mais je trouve que Westbrook a beaucoup à perdre, en fait. C'est plus, j'en reviens à mon avis du départ. C'est si ça se passe mal ou si cette équipe va pas aussi loin que ce qu'elle pensait pouvoir faire, je serais curieux de voir sur qui ça va, le coup près va retomber.
En tout cas, dans les médias, il sera ciblé auprès de médias certains US, de certains médias US, ouais.
Parce que basket session, rendez-vous cet été pour mes articles.
Non, parce que je pense qu'au bout du compte, la winning condition de toute façon des Clippers, ça sera toujours Kawhi Leonard, et pas seulement qu'il soit là, mais aussi qu'il soit vraiment en mode 2019. Donc je pense que quelque part, ça se jouera. C'est peut-être pas Westbrook, effectivement, qui fera leur jeu. Mais je vois bien, comme tu as dit, certains médias en mode « Ah, mais au fait, les Clippers, s'ils n'avaient pas ajouté Westbrook, ils avaient peut-être l'équipe qu'il fallait pour gagner, tu vois, genre, ce genre de truc venir. »
Parce que même
c'est
si,
pas impossible.
Alors c'est vraiment
pas aimé en plus de journalistes.
C'est ça. Alors je veux pas. Ça vraiment. Ça fait théorie du complot, mais c'est pas ça. Mais si je pousse un peu le délire plus loin, je me dis bon bah Kawhi Leonard, il peut partir cet été. Si finalement les Clippers se foirent comme ça, là, sur qui se foirent ou du moins vont pas là où ils doivent aller, s'il peut pas jouer ses derniers matchs, sur qui va être la pression? Bah là, t'es obligé de pointer du doigt Kawhi Leonard quand même, qui est là. Enfin. Dans le résultat des Clippers. Et, je dis pas ça pour enfoncer le clou. C'est simplement, bah oui, il est trop blessé. Il nous a pas permis d'aller là où on pouvait aller. Dans ce type de situation, on sait que certains joueurs préfèrent se barrer, quoi, plutôt que d'assumer les responsabilités ou de se dire, ouais, ça commence à trop parler de moi. Je vais peut-être aller voir ailleurs. Là, j'ai vraiment l'impression que Westbrook a tout pour faire office de fusible un petit peu. On verra ce que ça donne, mais effectivement, c'est le contexte qui est compliqué, quoi, qui est trop... j'ai l'impression qu'il y a trop de choses, trop peu de temps, trop de choses à gérer pour que ça puisse être une super success story où à la fin de l'année, on le voit en train de boire du champagne sur le parquet de la
Crypto Arena. Ça serait beau, par contre.
C'est clair.
Est-ce que vous vouliez aborder un dernier sujet?
Vas-y, Ben, je passe Steiner.
Bah, écoute, sur ma liste, j'avais quel taille faire le dossier médical de Kawhi Leonard, mais pas sûr que tout le monde soit très optimiste là-dessus. Ma question, ça va plutôt être un truc, on va se projeter un petit peu au-delà de cette saison, enfin, sur la fin de saison, mais différemment. Je me posais la question, personnellement, quelle est la meilleure équipe pour Victor Wembanyama? Parce qu'on a beaucoup parlé des équipes qui gagnent, on ne parle pas beaucoup des équipes qui perdent. Là, on a parlé de gros cylindrés, de gros joueurs, de succès, de victoires, etc. Mais là, je veux qu'on parle un petit peu de Charlotte, de Détroit, d'équipes qui perdent contre n'importe qui, de matchs nuls qu'on n'a pas envie de regarder, et qu'on se projette un petit peu sur cette question-là, parce que c'est clair que c'est un joueur qui est attendu autant que LeBron James en 2003 à peu près. On n'a pas connu autant de hype depuis. Donc la question de savoir où il va atterrir sera déterminante pour son avenir, pour l'avenir de sa franchise, pour l'avenir de la NBA peut-être si on croit Magic Johnson. Donc moi, ma question, effectivement, et je vais vous laisser commencer direct, c'est dans quelle équipe, parmi celles du bas de classement évidemment, vous voudriez le voir arriver?
Bah moi, j'ai pas changé d'avis depuis le début. Pour moi, c'est San Antonio. pour tout un tas de raisons. Parce que, d'une part, parce que c'est une franchise qui a prouvé qu'elle savait s'adapter en fait en fonction du talent de ses stars, que ce soit quand c'était Tim Duncan, quand ensuite à un moment c'était Manu Ginobili, quand ensuite c'était Kawhi Leonard, le coaching staff et le GM, en fait le groupe a su s'adapter aux talents spécifiques de ses stars. Je trouverais ça aussi que ce serait une justice en fait du côté des Spurs qu'ils puissent récupérer un joueur, un talent de ce niveau-là, parce qu'au bout du compte je trouve que c'est une équipe et une franchise qui a fait énormément de bien à l'évolution du jeu du basket et qui a souffert que d'une chose, c'est de jamais vouloir tanker. Donc en fait si on regarde depuis la draft de Tim Duncan, ils ont eu une seule fois un choix de draft dans les 15 premiers, si je me trompe pas, enfin du moins très longtemps c'était Kawhi Leonard, c'était le,
sachant que c'est même pas le leur,
c'est pas le leur effectivement, ouais. C'était un deal pour George Hill qui leur a permis de récupérer Kawhi Leonard. Donc j'ai l'impression qu'il y a un tas de franchises mal gérées qui font n'importe quoi, qui ont eu plus qu'à leur tour la chance de pouvoir choper des premiers choix de draft, qu'on a même eu un paquet. Cleveland, là, je suis ravi de les voir jouer comme ça, mais à un moment, c'était quand même catastrophique. Ils étaient nuls, ils se contentaient d'être nuls et d'aller chercher des first pick, second pick. À un moment, c'était absurde, sans qu'ils arrivent à les développer, même pour un certain nombre d'entre eux. Donc voilà, pour moi, ça serait San Antonio. Je pense que ça serait à la fois le bon endroit pour lui, parce que c'est un petit marché, et je pense que vu toute la hype qu'il y a autour de lui, c'est pas mal aussi d'être pouvoir être protégé dans un marché moins, comment dire, moins bling bling ou moins fringant que certains autres, et en même temps il y a un vrai savoir-faire, voilà. Puis il y a une histoire plutôt sympa, quoi, de se dire le meilleur joueur français de tous les temps a fait carrière là-bas. C'est une franchise qui a toujours prôné les qualités du jeu européen ou du jeu international, donc voilà, ce serait une belle histoire, je trouve.
Ouais, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Je vais essayer quand même de citer une équipe différente. Deux équipes différentes, deux autres petits marchés. Je suis d'accord hein, pour les Spurs. Moi, je vais essayer de réfléchir. Tu as dit meilleure équipe pour lui. J'aimerais bien qu'il soit compétitif dès l'an prochain. Je pense qu'il va être fort. Où qu'il arrive, il va transformer son équipe. Par contre, moi, les deux équipes que je te donne, je pense que s'il arrive, il y a moyen que ça soit très vite playoff, voire mieux, voire top 5. Okay. Pour une des deux surtout. Je vais d'abord donner par celle qui m'intéresse le moins des deux, Indiana. Donc Indiana, pourquoi ? Alors c'est un petit marché aussi. Je trouve que la franchise n'est pas très sexy. C'est bien géré, mais bon, c'est pas dingue non plus. Je pense par contre qu'il y aurait un meneur parfait pour lui, qui est le fait d'arriver avec Tyrese Haliburton. Il y aurait tout de suite un jeune noyau dur avec Tyrese Haliburton et Bénédicte Mathurin qui serait très intéressant. Et je pense que l'équipe serait vraiment compétitive dès le début. Donc il y a ça, mais c'est pas l'équipe qui m'emballe le plus. L'autre, et je prêche un peu pour ma paroisse, et je pense que c'est un long shot, mais Portland. Portland est pour l'instant... Ouais, c'est un peu un long shot, mais Portland est 12e de la Conférence Ouest, en fait. Portland est 12e, ils vont évidemment pas jouer le tanking, ils vont essayer de se qualifier, je suis pas sûr qu'ils y arrivent, et s'ils ratent le play-in, il faudrait de la chance à la loterie, hein, bien sûr. Par contre, je pense que ça serait vraiment bien, pour deux raisons, en fait. Déjà, ils seraient dans un petit marché aussi, mais qui est quand même là où il y a Nike, le siège de Nike, et Victor Wembanyama. C'est Nike, on le sait, je pense tous déjà. C'est même déjà le cas, je pense. Et l'autre chose, c'est d'arriver avec un meneur comme Lillard. En fait, ça serait la deuxième star que cherchent les Blazers depuis longtemps. Ça serait lui, en fait. Et le poste de pivot, clairement, il y a la place. Il aurait un leader parfait. Et en fait, derrière Lillard, ça serait la star derrière du renouveau jeune. Parce qu'avec Simons et Sharp, je pense qu'aucun des deux est amené à vraiment devenir une superstar. Ni Simon, ni Sharp. Par contre, si eux deux, c'était deux lieutenants autour de Wembanyama, tu as une franchise sexy, historique, petit marché, super leader, qui joue les playoffs clairement, clairement dès le départ, où son poste est demandé. Ça me ferait vraiment kiffer qu'il termine aux Blazers.
Après, la question, c'était la franchise pour lui, pas pour toi.
Mais pour lui aussi. Mais je pense que pour lui, c'est parfait aussi, en fait. T'es à la fois directement... Enfin, tu vas jouer direct des matchs qui comptent et en même temps, tu ne seras pas non plus complètement la superstar de ton équipe, mais il aura plein de ballons, en fait. Il aura plein de ballons et je pense qu'il vaut mieux jouer avec Lillard, avec Simons, avec Nasir Little, Jeremy Grant, que d'aller se manger Jalen Green et Kevin Porter Jr. aux Rockets. En fait.
On est tous d'accord. Sauf peut-être Benjamin qui n'a pas donné son avis.
Ou même la Melo Ball aux Hornets ou même n'importe quelle équipe des Pistons ou quoi que ce soit. Quoi. Je pense qu'une équipe comme ça, pour lui, c'est parfait.
Ben, moi, tu vois, je suis pas, je pense, aussi réticent à l'idée de le voir aux Rockets ou aux Hornets que beaucoup d'autres gens, mais quand même, j'ai pas envie de le voir là-bas en particulier. Une autre histoire qui me ferait bien marrer, c'est qu'ils finissent aux Pelicans par le pick des Lakers. Ce serait quand même un peu plaisir. Et effectivement, il y a aussi qui finissent dans une équipe qui est déjà plus ou moins compétitive cette saison. Alors, les Blazers sont certes mal classés, mais ils gardent un groupe très intéressant. Ou les Pelicans qui galèrent avec les blessures, mais qui, pareil, ont une équipe compétitive. Pour lui, effectivement, je pense que ce serait un petit peu le must, parce qu'il pourrait arriver, il aurait directement un rôle extrêmement intéressant, au moins en défense, et il pourrait jouer les playoffs, voire plus, comme tu dis, dès la première année. Maintenant, je pense que le scénario le plus probable, ça reste quand même une des équipes du fond, du coup, vraiment du fond du fond. Et parmi ces équipes-là, moi, je vois bien les Pistons, parmi les équipes qui sont intéressantes, parce que personnellement, j'aime bien leur projet. Kate Cunningham, je pense, c'est un petit peu comme Tyrese Haliburton à Indiana, un meneur qui correspond bien à celui de Victor Wembanyama. C'est un bon organisateur. On sait que, évidemment, il s'épanouira mieux avec un poste 1 qui est dominant, voire générationnel, comme Haliburton ou Kate Cunningham. Donc, qu'il y ait déjà ce potentiel-là sur place, c'est vraiment intéressant et ça permet déjà d'imaginer une sorte de synergie. Et au-delà de ça, je trouve que le projet est vraiment deep. Il y a quelque chose d'intéressant. Il y a pas mal de jeunes vraiment cool. Jaden Ivey, bon, du coup, il va peut-être sauter avec ce choix-là, mais même Jalen Duren, Isaiah Stewart, ils ont recruté James Wiseman.
Regardez Jalen Duren, j'adore ce joueur.
Bah, ça pourrait être jouable d'avoir Victor en 4 et Jalen Duren en 5. Oui,
super
complètement.
Complémentaire avec, c'est plutôt leur James Wiseman et Marvin Bagley, oui. Peut-être qui sont un peu moins complémentaires.
Ah, oui, qui
ont un quasi le problème.
Oui, par contre, effectivement, il y a peut-être le coach qui reste quand même pas optimal pour développer des jeunes. Toujours est-il que ça reste quand même un coach plus compétent que dans beaucoup d'équipes en reconstruction. Je pense aux Rockets avec Stephen Silas, en l'occurrence, qui fait des choses assez dramatiques avec son équipe. Mais en fait, je trouve que ouais, il y a pas mal de talent, il y a une identité de franchise, il y a un Français sur place qui n'est peut-être pas amené à rester à long terme, mais ça aide aussi le lien. Et pareil, les Pistons restent une franchise historique qui, depuis un moment, peine quand même à trouver des joueurs intéressants, à construire une équipe compétitive. Il y a eu la période avec André Drummond et Blake Griffin, mais c'est pas ce que j'appelle du basket, pour commencer. Et
ça a passé tellement vite que c'est le dernier All-Star des Pistons, hein, quand même. Blake Griffin, faut le rappeler.
Mais c'est terrible, hein. Et même Drummond était pas mal, en fait. Hein, mais Drummond ou Wembanyama, il y a quand même un temps potentiel, un monde de différence. Donc voilà, un petit peu comme pour toi avec les Spurs, dans l'idée de dire on récompense une franchise qui le mérite. Pour moi, ce serait les Pistons. Mais toi, c'est plus au mérite en fonction de... Ils n'ont pas beaucoup tanké, les Spurs, on va leur donner. Moi, c'est plus en mode les Pistons, ils font un peu pitié au fond de la ligue. J'aimerais bien leur donner pour qu'ils puissent remonter. Donc, Pistons, moi, j'aime bien. Et après, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise franchise. Voilà.
Tu vois.
Bah, ouais, je partage pas ton avis. Je pense qu'il y a des franchises où
il reprend les mots de moi. Il maîtrise déjà la langue de bois, on peut le dire.
Mais il est merveilleux, franchement. Du coup, je l'ai eu la semaine dernière en conférence de presse avec l'équipe de France. Et à chaque réponse, j'ai l'impression qu'il a un petit sourire amusé parce qu'il sait qu'il répond parfaitement pour être dans les clous de sa communication, etc. Et il est en maîtrise totale. Donc là-dessus, en tout cas, la NBA n'a pas de souci à se faire. Il est déjà bien formé sur le plan média, quoi.
Non, mais c'est vraiment, ça va être, de toute façon, ça va être passionnant à suivre. Je voulais juste faire une petite remarque là, parce que j'ai vu récemment Charles Barkley qui disait qu'il avait qui se faisait du souci pour Wembanyama, qui n'était pas sûr qu'il pourrait vite s'adapter, et qui disait, il y avait deux arguments, c'est qu'il disait qu'il avait vu qu'un seul joueur de toute sa vie arriver à ne pas passer par la case universitaire et être dominant tout de suite en NBA, c'était LeBron James. Je crois qu'il oubliait un petit peu vite Luka Doncic, quand même, hein, même encore aujourd'hui. T'as l'impression qu'il n'est pas traité à la même enseigne que certaines stars américaines.
Et l'autre, qu'il avait déjà critiqué à l'époque, hein, d'ailleurs, pour Luca, il avait fait les mêmes commentaires.
Et avec les mêmes arguments, on ne sait pas contre qui ils jouent, là, ils vont jouer contre des grand men. Bah oui, mais quand tu joues en Europe, en pro, tu joues contre des grand men. Quand tu es à la fac, non, tu joues contre des mecs de 19-20 piges. Et effectivement, là, pour le coup, on ne sait pas quel est le niveau de la compétition que tu affrontes. Donc tu dis, bon, après, ça reste Charles Barkley. Hein, je me doute bien qu'il ne se connecte pas pour regarder les matchs de Boulogne. Mais bon, ça m'avait un petit peu sourire de me dire qu'en 2023, on entendait encore les arguments complètement fous de vouloir nous faire croire que la NCAA était un niveau plus relevé que les ligues pro-européennes. Mais bon. Referme la parenthèse. Antoine, t'avais autre chose à ajouter sur Wemby ?
Non. Si, à la limite, peut-être équipe de France. J'étais un fervent défenseur de l'inviter à la Coupe du Monde. Et il y a déjà plusieurs mois, j'avais dit ouais, faut vraiment qu'il soit à la Coupe du Monde. Je pense qu'en fait, ça sera même plus une invite. En fait,
je crois
que un mois après, j'avais dit ouais, il sera peut-être même titulaire. Je crois qu'en fait, il sera titulaire, en fait. Je pense qu'il est titulaire dans cette équipe de France, même au complet. Je crois que c'est pas que les campagnes de qualif, là, je crois qu'on se rend pas compte, mais le gars est déjà très très. En fait, il suit vraiment Tony Parker, il sera titulaire. Je vois pas un monde où Wembanyama. Je sais que bon, après, pour des logiques, bon, il y a Gershon, il y a Buzelic, mais.
Ou Joel Embiid, éventuellement.
Mais bah, tu vois, même s'il y avait Embiid,
Ah, tu ferais
c'est
sortir
terrible ce que
Joel
je vais
Embiid du
dire,
banc.
mais non, je ferais Embiid ou Wembanyama en fait.
Ok,
Bon, je
ouais,
pense pas que c'est ce que
d'accord.
ferait Vincent Collet, mais bon, Rudy Gobert va pas aimer cette prise de position, mais je pense que Wembanyama est en train de. Enfin, c'est dingue, c'est quand même la star de tous les matchs de qualif, je sais pas si on se rend compte en fait. Ce matin, j'ai vu un tweet d'un Américain qui allait un peu dans le sens de ce que tu disais sur Barclay. Il montrait le replay où Wembanyama se fait dunker dessus. Et tu sais, dans les commentaires, c'est tout de suite, ah, il est soft, il est soft. Ah, les gars, vous avez vu une action, il finit avec 24 points, 17 rebonds, 6 contres. Je veux dire, il a 19 ans et c'est des campagnes de qualif. Il est là, il domine. Je crois que les gars sont pas prêts. Pour rejoindre notre podcast, je vous encourage à l'écouter, notre podcast de la semaine dernière, il faut faire un All-Star Game États-Unis contre international, que les Américains se fassent un peu botter les fesses et qu'ils comprennent que leur formation, il y a un sérieux souci et qu'il faut qu'ils revoient leur méthode de formation.
Et que Reggie Miller apprenne enfin à prononcer Antetokounmpo, qui est quand même double MVP, défenseur de l'année, MVP des finales, champion NBA. Il serait temps un petit peu de se mettre à la page sur les Européens.
Ouais, bah, il va être obligé en allant sur Wikipédia, en regardant la liste des derniers MVP, hein, parce que quoi qu'il arrive, cette année,
Ouais,
ça
ce
sera,
sera
il y a
encore un
quand même de grandes
Européen.
chances, sauf, si
Avec
c'était
défilé,
Jason
hein.
Tatum, il y a de grandes chances que ce soit à nouveau pas un Américain. Donc il y a
Ce
un
serait très beau
moment,
que Doncic gagne l'an prochain.
c'est tout. C'est en place pour. Hein. Bref, en tout cas, merci encore à tous les deux pour vos interventions. Merci de nous suivre semaine après semaine. Vraiment, c'est vraiment un kiff pour nous de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas, les commentaires, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, dites-nous ce que vous avez pensé des podcasts. S'il faut qu'on fasse revenir Shai ou si on le laisse au goulag là où on l'a envoyé depuis 2 semaines ou pas, dites-nous tout ça. Nous, on vous dit à très vite. En attendant, n'oubliez pas le MOOC spécial Jordan numéro 11 qui est toujours en précommande. Voilà, il reste quelques jours si vous voulez le précommander pour pouvoir bénéficier des frais de port gratuits. Pour tout le reste, toutes les informations sont sur Basket Session, la plume de Benjamin et d'Antoine également. On vous dit à très vite. Ciao!
Ciao. Game is out there, and it's either play or get played.